Après avoir établi son autorité en guérissant des maladies et en chassant des esprits impurs, Jésus a annoncé que les prophéties sur la venue d'un sauveur des Juifs étaient accomplies. Une nouvelle ère commence avec la venue de Jésus. Et à présent, Jésus va former une nouvelle communauté. Il va appeler des hommes et il va leur donner la grande et la plus belle des missions, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ces hommes, Jésus va les choisir parmi les faibles, les petits, les gens les plus ordinaires qui soient, et dans quelques années, ces mêmes hommes vont bouleverser l'Empire romain avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11 et versets 16 à 26, et au chapitre 6, 1 à 13, dans la nouvelle édition de Genève. Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui est à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Luc, au chapitre 5, versets 16 à 26. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Luc, au chapitre 6, versets 1 à 13. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres.
Merci, Julie, pour cette belle lecture de la parole. Bonjour tout le monde. Ce matin, on a un frère qui est en train d'assister au service, mais par web diffusion. Alors, avant d'aller dans la prière, je veux juste vous le mentionner pour qu'on puisse justement prier pour lui. C'est notre frère Jean-Claude. Salut Jean-Claude, qui est à l'hôpital. Jean-Claude Cabana est atteint d'un cancer et puis cette semaine, les nouvelles n'ont pas été très bonnes. Donc, il y a une récidive assez agressive. Et ce matin, sa famille a pensé s'organiser pour qu'il puisse assister au service ce matin. Et ça nous touche. Donc, il est avec nous. On va être avec lui maintenant tout de suite dans la prière, d'accord? Père éternel, on veut te bénir pour ce temps en Église, Seigneur. Chaque personne qui sont présentes ici ce matin pour entendre ta parole, Seigneur. À travers la lecture, mais aussi à travers ce que tu as mis sur mon cœur de partager. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est t'entendre toi nous parler. Et Père, on voudrait te demander tout spécialement dans ta grâce, dans ta bonté, par la puissance de ton Esprit Saint, d'apporter un message tout spécial pour Jean-Claude, pour Nicole, pour sa famille, Seigneur. Ce matin, viens leur parler, viens les bénir au travers de cette épreuve, Seigneur. On te prie, Père, de nous interpeller, de nous conduire, de nous amener à admirer, à voir la beauté de Jésus-Christ et à répondre à son appel. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Tournez avec moi si vous n'êtes pas déjà là dans Luc, c'est super important. Ce passage-là, c'est une histoire de pêche. Okay? Une histoire de pêche comme bien des histoires de pêche. En fait, pendant que j'étudiais le passage, tout ça, je m'imaginais dans le temps, quelques années plus tard, admettons, Pierre, Jean, Jacques, vous connaissez l'expression Pierre, Jean, Jacques. Fait que Pierre, Jean, Jacques sont ensemble en train de prendre une bonne pinte puis de se rappeler du temps où ils avaient fait cette rencontre-là absolument extraordinaire qui allait bouleverser leur vie. Puis ils commencent à raconter une histoire de pêche comme toutes les histoires de pêche, hein, parce que tous les pêcheurs ont attrapé le seul poisson extraordinairement grand. Mais eux, c'était pas le plus grand poisson, c'était la plus grande pêche incroyable. Et ces gars-là se rappelaient d'une journée qui commençait peut-être comme toutes les journées, une nuit en fait de pêche qui avait été plus qu'ordinaire parce que la pêche n'avait pas été bonne. Et ils vont faire une rencontre cette journée-là qui va venir bouleverser toute leur vie au complet. Et ma prière ce matin, c'est qu'à travers ce passage-là, chacun d'entre vous, vous puissiez faire cette rencontre-là. Avec ce personnage absolument extraordinaire qui a transformé ces gars bien ordinaires en des témoins extraordinaires, plusieurs années plus tard. Dans le passage de ce matin, je vous dis de tourner avec moi, c'est parce qu'il y a deux grands thèmes. Je sais qu'on a des jeunes qui assistent à cette partie-là du service, puis je pensais à vous ce matin. Voyez-vous, la semaine prochaine, on va compléter jusqu'à la fin du chapitre 7, puis c'est vrai pour tout le monde ce que je vais dire, mais des fois, les jeunes qui décident de rester veulent comme s'investir un peu plus, puis je vais vous donner un truc, d'accord, pour tirer davantage du message, puis en fin de compte, c'est bon pour tout le monde. Prenez le temps de lire le passage d'avance, puis je vais juste vous montrer ce matin, en quelques instants, un petit peu ces thèmes-là qui apparaissent, qui sont super importants. Alors, la semaine prochaine, pour vous préparer, complétez jusqu'au chapitre 7 votre lecture, et puis vous allez être en mesure de tirer beaucoup plus du message. Des fois, on fait des messages dans la parole de Dieu avec une, nous on appelle ça en termes techniques, une péricope. C'est comme une section naturelle. D'accord? Toutes les petits titres de sections que vous avez dans vos Bibles, ben, ils n'étaient pas là dans les textes originaux, d'accord, dans les documents originaux. Puis c'est les éditeurs qui se sont dit, ah, okay, on a une coupure naturelle ici, on va mettre un petit titre, ça aide à se rappeler, ça donne une suite logique, tout ça. Et donc, souvent dans un message, le prédicateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une petite péricope. Si vous êtes avec moi, là, vous avez vos Bibles ouvertes, d'accord? Vous allez pouvoir le visualiser avec moi. Admettons, une section naturelle, ce serait de prêcher pour moi ce matin simplement sur Luc 5:1, puis je m'arrête au verset 11. Là, j'ai une péricope, j'ai une coupure naturelle qui est là. J'aurais pu faire ça, puis on aurait tiré un paquet d'informations, parce que lorsque Luc a pris le temps d'écrire ça, inspiré par l'Esprit-Saint, il y avait des leçons qu'il voulait qu'on apprenne de ça. Mais d'autres fois, on fait ce que moi je suis en train de faire actuellement, on passe à travers un grand livre, comme le livre de Luc, en 15 messages, 15 exposés bibliques. Puis là, ça veut dire qu'on fait des fois du vol plané, vraiment en haute altitude, au-dessus du passage. Et il y a encore là des coupures naturelles. Il y a encore là des intentions de l'auteur et humain et divin qui transparaissent lorsqu'on les étudie, d'accord? Et je veux juste vous le montrer ce matin pour que vous puissiez voir d'autres choses que vous ne verriez pas si vous seriez juste dans la première péricope. Dans cette section-là qui, pour nous ce matin, commence avec Luc 5:1 et va se terminer dans le fond avec Luc 6:16, il y a deux thèmes principaux qui ressortent de toute cette section-là. Le premier thème, c'est Jésus, évidemment, l'Évangile de Luc, thème principal, Jésus, on s'entend. Mais Jésus, qui est-il ici? Puis on va voir ensemble que pour la première fois, il apparaît vraiment comme le Seigneur. Mais pas juste un Seigneur, quelqu'un de noble. Le Seigneur, vous allez voir, super évident, et on va le faire ressortir à travers différents éléments. Il y a un autre thème, il y a deux thèmes qui s'entrecroisent à travers toute cette section-là, les deux se suivent. Et c'est celui d'une nouvelle communauté. Jésus appelle et forme une nouvelle communauté, un peuple nouveau, j'oserais dire. Ce thème-là apparaît dans cette première section-là, Luc 5:1 à 11, avec trois bonhommes, Pierre, Jean-Jacques, que Jésus va appeler, puis ils vont le suivre. Puis après ça, le thème revient lorsqu'on va un petit peu plus loin, au verset 27, avec l'appel de Lévi, qui ailleurs va être appelé aussi Matthieu, d'accord, un des apôtres. Et donc, oups, il est en train d'appeler ses boys, il est en train de préparer cette nouvelle communauté-là. Et lorsqu'on arrive à la fin de cette section, donc j'ai décidé de couper là, parce qu'il y a une intention là, on arrive au verset 13 à 16, et là, ceux qu'il a commencé à appeler, ils se retirent dans la prière, et lorsqu'il revient de la prière, il les nomme apôtres. Et là, il nomme 12 apôtres, comme il y a 12 tribus en Israël, d'accord? Alors, voyez-vous, il y a ces deux thèmes-là qui vont s'entrecroiser. Et ce que ça donne, en gros, c'est qu'on a le Seigneur qui appelle et forme une nouvelle communauté de grâce, un peuple nouveau. Et ce matin, c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Qui est ce Seigneur-là? Et quelle est cette nouvelle communauté de grâce qui est en train de former? Et j'espère que vous le voyez dans le texte pour recevoir le message que Dieu veut vous apporter à vous ce matin. Jésus-Christ est absolument Seigneur. Ça perd son sens avec le temps. On chante des louanges, puis c'est Jésus, tu sais, c'est Jésus. Jésus, c'est, pour un chrétien, Jésus, c'est son sauveur, c'est son Seigneur, mais c'est aussi son ami. Ce matin, je vous demande d'oublier Jésus, votre ami, d'accord? Et je vous demande de découvrir Jésus comme ces gars-là vont le découvrir cette journée-là, après une nuit de pêche qui a mal été puis qui change complètement. Les gars ont pêché toute la nuit, la pêche a été nulle. Jésus s'approche sur le bord et puis, pour que ce soit commode, décide de monter. Il demande, il embarque dans une barque puis il dit à Pierre, en fin de compte, fais juste éloigner un peu de la berge, comme ça je vais avoir un auditoire, un petit peu comme si j'étais sur une barque puis j'étais en train de m'adresser à vous. Puis on peut imaginer un flanc de montagne où sa voix va porter davantage. Et puis, il commence à enseigner tout ça. Et lorsqu'il termine son enseignement, Jésus dit, OK, comme il le fait souvent dans l'Évangile de Luc, on le voit déclarer des choses qui sont grandes sur lui, mais après ça, il les illustre de manière extraordinaire. Il se retourne vers Pierre puis il dit, Pierre, avance ta barque dans l'eau. Vas-y, on s'en va à pêche, mon homme. Là, Pierre est respectueux. Il dit, écoute, Seigneur, je sais que tu es fils de charpentier, tu ne connais pas grand-chose à ça, mais bon, tu sais, C'est correct, parce que tu le dis, on va le faire. Allez, ils avancent leur barque dans l'eau. Ce n'est pas le moment de la pêche. Ils jettent les filets à l'eau. Une pêche absolument miraculeuse. Une pêche incroyable. Une vraie histoire de pêche. Vous comprenez? Oubliez vos gros brochets. Là. Allez vous cacher avec ça. Une vraie histoire de pêche incroyable. La barque est pleine. Ils ont besoin de leur body qui s'en viennent avec leur autre barque pour pouvoir ramasser les poissons, tout ça. Et à un certain moment donné, dans cette folie-là, où ils sont complètement excités de voir tout ce qui est en train de rentrer dans la barque, Pierre réalise, mais tout ça s'est fait à cause de ce que Jésus a déclaré. C'est pas comme juste une pêche extraordinaire. C'est pas une histoire de pêche où je vais aller raconter comment j'ai été un bon pêcheur. C'est une histoire de pêche où Pierre est complètement bouleversé parce qu'il réalise que par un pouvoir surnaturel, cet homme-là qui est juste à côté de lui dans sa barque, est un homme incroyable, est un homme extraordinaire. C'est pas normal que Pierre soit dans sa présence. Et là, Pierre littéralement tombe aux genoux de Jésus. Et il s'écrie à ce moment-là, lorsqu'il réalise qu'est-ce qui est en train de se passer. Pierre tombe aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et pour la première fois dans l'Évangile de Luc, quelqu'un interpelle directement Jésus avec ce titre-là, « Seigneur. » Ce titre-là pouvait être utilisé comme un terme de politesse. C'était plus que monsieur, c'était grand monsieur. Tu sais, c'était, on n'en a plus tellement dans notre époque des termes de politesse, mais honorable. Donc, ça peut être ça. Ça aurait pu être simplement comme un homme. Mais clairement, c'est plus que ça. Parce que le même terme « Seigneur » qui est utilisé ici est souvent aussi utilisé pour parler de Dieu directement. Par exemple, on trouve plutôt dans l'Évangile de Luc, dans Luc 2:9, « Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. » Alors, le terme « Seigneur » ici, c'est pas mal plus qu'un grand monsieur. C'est littéralement Dieu qui est là. Donc, la réaction de Pierre lorsqu'il a déclaré « Seigneur, retire-toi de moi », ça aurait pu être simplement de dire « Aïe, aïe, je suis en présence d'un prophète incroyable. » Mais lorsqu'on lit et qu'on connaît l'Ancien Testament, inévitablement, il y a des passages qui nous reviennent à l'esprit où lorsqu'un homme s'est trouvé dans la présence de Dieu directement, il a été saisi d'une grande crainte parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Ce sentiment-là, Tout le monde ici va le vivre un jour. Chacun d'entre nous, un jour, on va vivre ça. Que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, c'est la parole de Dieu dit la vérité. Un jour, chacun d'entre nous, on va vivre une espèce de... On va être terrassé par la grandeur et la sainteté de Dieu. Pas besoin de sermon lorsque ça va se produire, pas besoin d'explication. La simple présence de Dieu va nous dire que nous ne sommes pas Dieu. Et on va vivre ça profondément, personnellement, intimement. La réaction de Pierre ici ressemble à la réaction, par exemple, d'Ésaïe, le prophète, lorsqu'il a réalisé qu'il était dans la présence de Dieu. Il s'est exclamé, « Alors je dis, malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Pas besoin d'explication lorsqu'Ésaïe s'est trouvé dans la présence de Dieu. Il a pris la mesure en un instant de qui est Dieu et qui il est lui. Et c'est ça qui se passe dans cette barque-là. Où Pierre n'entendait probablement pas pour la première fois Jésus enseigner, mais pour la première fois, Pierre réalise qu'il est en présence du Seigneur. Et il se sent absolument indigne d'être à côté de Jésus. Il lui dit, « Retire-toi de moi, parce que moi, je suis un pécheur. Jésus-Christ est Seigneur. » Jésus-Christ est le Seigneur qui pardonne les péchés. J'avance dans le passage. Jésus est le Seigneur qui pardonne les péchés. Un petit peu plus loin dans notre texte, Jésus s'en va vers quelqu'un qui est paralysé. Et puis, il aurait pu tout simplement le guérir, puis ça s'arrête là. Mais Jésus veut enseigner, parce que chaque fois que Jésus faisait des miracles, c'était pour enseigner. Et donc, Jésus veut enseigner quelque chose. Et puis, il lance un défi aux docteurs de la loi qui connaissent bien la Bible. Eux autres, ils connaissaient leur Bible, je peux vous dire. Hey, tu peux connaître la Bible et rien comprendre aussi. Fait que Jésus leur dit, qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire un miracle ici, là, comme ça, là. Guérir quelqu'un qui est paralysé ou dire, tes péchés sont pardonnés. Il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Il produit le miracle et il guérit la personne. Et la foule qui est présente, des docteurs, des spécialistes, des experts en théologie, disent, ils ne sont même pas émerveillés par le miracle. Ils sont scandalisés parce qu'ils comprennent très, très bien le message. Un des éléments qui est frappant à travers le récit dans l'Évangile de Luc, puis c'est vrai à travers les quatre évangiles, c'est que Jésus dévoile toujours à mots couverts, à mots voilés, qui il est, jusqu'au moment attendu où il doit aller sur la croix. Son ministère et qui il est dans sa personne est dévoilé progressivement. Et lorsque Jésus fait ça, les spécialistes, les docteurs de la Bible disent « Mais c'est Dieu qui pardonne, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est Dieu qui pardonne. À Dieu seul, l'autorité de pardonner les péchés. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur qui pardonne les péchés, mais il y a Dieu seul qui pardonne les péchés. Un petit peu plus loin encore dans le passage, quelqu'un vient vers Jésus un jour de sabbat. Le jour du sabbat, c'était le jour du repos qui avait été donné dès la création du monde. Dieu donne la septième journée comme jour de repos. Jour de repos qui, selon la loi juive, doit être consacré à servir Dieu, à se reposer, mais à se reposer en servant Dieu. Pour les chrétiens, historiquement, ça s'est déplacé un peu au premier jour de la semaine. Puis on n'en fait pas exactement une loi comme dans l'Ancien Testament, mais on consacre une journée à se reposer, puis à célébrer Jésus-Christ, à célébrer Dieu. Alors, un jour de sabbat, alors que les docteurs avaient construit toutes sortes de lois très, très importantes, le jour du sabbat, c'était consacré à se reposer puis à servir Dieu. Donc, il y avait beaucoup de choses que tu n'avais pas le droit de faire. Tu n'avais pas le droit de faire du bien si ça te demandait de faire un effort. D'accord? C'était la folie du temps où on essayait de décortiquer les choses beaucoup plus loin puis on perdait complètement l'esprit de la loi de Dieu. Mais Jésus arrive le jour du sabbat. Quelqu'un vient vers lui. La personne est malade. Jésus encore une fois. Alors, il y a deux épisodes, là, il y a deux sabbats qui se superposent ici. Et il va guérir un malade le jour du sabbat afin que les gens sachent que le Fils de l'homme a autorité sur le sabbat, a pouvoir sur le sabbat. C'est un des enseignements importants à travers tout l'Évangile de Luc et chacun des évangiles. Jésus n'est pas venu abolir la loi de l'Ancien Testament d'aucune manière, mais il est venu l'accomplir et il est venu aussi nous enseigner ce qu'elle voulait vraiment dire, cette loi-là. Et ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de dire, « J'ai l'autorité pour vous enseigner ce qu'est la loi de Dieu. » Comme autorité, si vous avez à me positionner, vous devez me placer au-dessus de la loi. C'est super important ce qu'on est en train de voir ici, d'accord? Le christianisme ne présente pas un prophète Jésus qui serait venu pour interpréter ou nous partager la parole de Dieu. C'est vrai, il y a tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Si je veux saisir qui est Jésus, ce n'est pas seulement le prophète qui est envoyé par Dieu pour nous faire connaître la parole de Dieu. Non, non, non. C'est celui qui vient et qui est au-dessus. Parce qu'il est maître de la loi de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Voyez-vous que Jésus est encore en train d'insinuer à quelque part sa divinité? Moïse n'était pas au-dessus de la loi. Moïse n'aurait jamais prétendu, celui par qui Dieu a donné les 10 commandements, Moïse n'aurait jamais déclaré « Je suis maître de la loi. Imaginez Moïse en train de dire ça. Je pense qu'il aurait été zappé du ciel, fou, sur place. Mais Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est Seigneur. Il pardonne les péchés. Il est maître de la loi. Commencez-vous à comprendre pourquoi ces gars-là ont été bouleversés par cette rencontre-là? Le Jésus qu'on vous prêche, le Jésus que l'on suit, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un enseignant simplement. C'est Dieu fait homme. Cette doctrine que les chrétiens défendent au prix de leur vie, depuis des siècles maintenant, défendent bec et ongles la divinité de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que les chrétiens ont cousu de fil blanc pour essayer de s'imaginer un Dieu plus grand. Si vous allez vers une secte chrétienne qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Fils, cette secte-là est hérétique. Elle n'enseigne pas la parole de Dieu parce que c'est là dans le passage. Le Fils de l'homme, ce n'est pas Moïse. Le Fils de l'homme, c'est celui qui est maître du sabbat, qui est maître de la loi de Dieu. Il n'est pas simplement venu commenter la loi. Il n'a pas parti une nouvelle vague cool de ceux qui suivent le Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Dieu de l'Ancien Testament qui vient créer une nouvelle communauté. Il est le Seigneur. Il est celui qui pardonne les péchés. Connaître Jésus-Christ personnellement, c'est connaître celui qui peut pardonner mes péchés. Connaître Jésus-Christ personnellement, c'est connaître le maître de la loi de Dieu. Et enfin, Jésus est le Seigneur. C'était pour ça que c'était important pour moi d'enseigner sur toute cette péricope-là, toute cette section-là ensemble. Jésus est le Seigneur qui forme le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé, c'est Dieu, c'est Jéhovah, Dieu lui-même, qui va se donner un peuple, qui va se former un peuple. Un peuple qui n'était pas un peuple parce que c'était, oui, une famille, une descendance d'Abraham, mais c'était des esclaves. Il n'était pas un peuple, une nation digne de ce nom. C'était un peuple d'esclaves, pas organisé, sans destinée, sans avenir. Et Dieu va les appeler hors d'Égypte pour pouvoir les conduire vers la terre promise et il va se donner un peuple qui va être organisé autour de 12 tribus. Puis vient ce Jésus. Vient ce Jésus qui commence à appeler des hommes spécifiquement par leur nom. Il les appelle et il leur dit « Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Et à la fin complètement de cette portion-là, au verset 13, 6-13, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Un petit peu plus loin dans l'Évangile de Luc, je vais vous lire le passage. Luc 22, juste pour vous voir que je ne suis pas en train d'imaginer des choses, c'est là dans ce que Dieu est en train de nous révéler. Luc 22, 29. C'est Jésus qui parle, il parle aux 12. C'est pourquoi je dispose d'un royaume en votre faveur, du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Fait que vous avez ces 12 bonhommes-là, la majorité d'entre eux, plus qu'ordinaire, qui n'étaient pas des apôtres, qui n'étaient pas des gars incroyables. Comme le peuple d'Israël n'était pas un peuple, c'était des esclaves en Égypte. Et Jésus vient et les appelle. Et lorsqu'on est ici dans Luc, dans ce passage-là, on dit, OK, il est en train de former une nouvelle communauté avec 12 apôtres qui vont un jour juger les 12 tribus. Est-ce que vous comprenez que Jésus est en train de dire que ces 12 apôtres vont être au-dessus des tribus d'Israël? Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre eschatologie, la doctrine de la fin des temps. Il y a des choses à comprendre ici, je vous l'assure. Il y a des choses importantes à comprendre ici. Et ces 12 apôtres-là vont juger les 12 nations. C'est une nouvelle communauté, un nouveau peuple de Dieu que Jésus-Christ est en train de se constituer. Et si on s'arrête ici dans l'histoire, on dit, ouais, mais come on, t'avais 12 tribus, il y était des millions de personnes, c'était un peuple, puis t'as 12 bozos qui sont là. Les gars, c'était des pécheurs, c'est quoi cette affaire-là? Oh, mais attendez un peu. Là, il les appelle, il est en train de constituer sa communauté. La semaine prochaine, on va voir comment elle est qualifiée, cette communauté-là, comment est-ce qu'elle vit, cette communauté-là. Attendez encore un peu, Jésus va les enseigner 3 ans. Attendez encore un peu, Jésus va mourir sur la croix, va ressusciter d'entre les morts. Attendez encore un peu, il va leur envoyer son esprit. Et attendez de voir ce que ces 12 hommes-là vont faire avec l'Empire romain. Ils vont bouleverser l'Empire romain parce que Dieu va leur montrer que ce message, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu n'est pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations de la terre. Et en quelques décennies, l'Empire romain va être bouleversé par le christianisme. Et depuis 2000 ans, Jésus-Christ, à travers ses disciples qui vont faire des disciples, qui font des disciples, qui annoncent la bonne nouvelle du royaume, à travers des hommes, des femmes qui deviennent des pêcheurs d'hommes, depuis 2000 ans, Jésus-Christ forme cette nouvelle communauté-là. Et c'est ça notre appel. C'est ça ton appel. Si tu as répondu à l'appel de Jésus, tu fais partie de cette communauté incroyable, cette nouvelle communauté qui n'est pas dirigée par Moïse, qui est dirigée par Jésus-Christ le Seigneur qui pardonne les péchés, le Seigneur qui est maître de la loi, le Seigneur qui a toute autorité pour se former un peuple. Dieu le Fils. Et cette communauté-là qu'il forme, c'est une communauté de grâce. C'est une communauté de grâce. J'ai dit qu'il y avait deux thèmes, hein? Jésus-Christ. Et cette nouvelle communauté qui va former le deuxième thème, c'est une communauté de grâce, c'est une communauté de gens plus qu'ordinaires. Parce que Jésus appelle des pécheurs, des impurs. Voyez-vous, il y a ce thème-là qui est là à travers tout ça, c'est que les gens qu'il va appeler pour devenir son peuple, c'est des gens bien ordinaires. Les gars sont à la pêche un matin, et le soir, ils sont en train de suivre Jésus-Christ. Un autre est un péager qui en profite un peu, c'est un collecteur d'impôts, en profite pour en mettre un petit peu dans ses poches parce qu'il y a pleine autorité dans le temps. Dans le fond, tu avais un quota à faire. Aujourd'hui, tu rentres 20 000 $. Comment tu y arrives, c'est ton problème. Si tu en mets 10 000 dans tes poches, c'est ton trouble. Puis on va mettre 2 soldats à côté de toi juste pour s'assurer que les gens rentrent le cash, man. Puis ce gars-là laisse tout pour le suivre, Lévi. Mais à travers tout ça, ces gens-là sont plus qu'ordinaires. Pierre se déclare pécheur. Dans la présence de Jésus, il réalise qu'il n'est pas digne d'être là avec Jésus. Et puis après, il y a ce thème-là encore de l'impureté. Ça va avoir de l'air vraiment étrange, mais à travers une maladie. Un homme qui est atteint de la lèpre s'approche de Jésus puis il dit, « Si tu le veux, Seigneur, je suis au verset 12 et 13, Luc 5, 12, 13, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Parce que, à l'époque, cette maladie-là, qui pouvait être contagieuse, était traitée comme une impureté. Et donc, celui qui était atteint de cette maladie-là vivait comme un paria. Il devait, lorsqu'il s'avançait dans une foule, lorsqu'il circulait en ville, il devait crier lui-même « Impur, impur !» pour que les gens puissent le fuir. Et cette personne-là n'avait pas accès à la célébration avec le peuple de Dieu de la même manière. Et Luc est en train de suggérer ici, à quelque part, qu'on est tous comme cet être-là. Parce qu'à l'intérieur de nous, dans nos vies, il y a de ces choses qui font qu'on n'est pas digne de cette perfection de Dieu. Quand vous essayez de comprendre la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu, il y a l'idée que Dieu est celui qui ne pèche pas, d'accord? Moralement, il est parfait. Mais ce n'est pas suffisant. Dans tout ce qu'il est, il est parfait. Il n'y a rien de déchu, il n'y a rien de brisé en Dieu, il n'y a rien d'impur en Dieu. Dieu est la perfection même. Et j'ai celui qui est Seigneur, qui s'approche et qui touche à ce lépreux. Voyez-vous, un autre thème qui traverse tout ce passage-là, c'est que Jésus est venu pour appeler des pécheurs. Et dans le passage, il y a simplement deux groupes d'individus. Il y a ceux qui savent qu'ils sont pécheurs et il y a ceux qui disent qu'ils ne le sont pas. Un tout petit peu plus loin dans le passage, alors qu'il va guérir quelqu'un, il va avoir les gars qui vont être scandalisés, puis tout le kit, puis là, après ça, Jésus va aller manger chez Lévi, puis là, il est avec des gens de mauvaise vie, tout ça, puis les commères théologiques sont là en train de juger puis de critiquer Jésus parce qu'il se tient avec du monde pas correct, tu sais, puis des gens qui sont pas comme eux, c'est vraiment du monde tout croche. Puis Jésus leur dit, après que Pierre ait dit, « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. » Après que le lépreux a dit, « Si tu peux me rendre pur. » Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ceux qui pensaient qu'on ne peut jamais être ironique lorsqu'on enseigne, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer ici. Tout le monde est pécheur dans la présence de Jésus. Tout le monde est impur dans la présence de Jésus. Mais il y a deux groupes d'individus. Il y en a probablement deux groupes dans la salle ici aujourd'hui. Il y a deux groupes d'individus. Vous pouvez séparer en deux tous les gens sur la terre. Ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. Puis ceux qui disent, non, je fais des erreurs, mais c'est jamais vraiment mal. C'est jamais quelque chose de moralement mal. J'apprends de mes erreurs. OK, je suis baveux, j'ai menti, j'ai fait quelque chose de tout croche, mais écoute, on apprend de nos erreurs, c'est pas quelque chose de mal. Le bien, le mal n'existe pas vraiment. On s'améliore, je m'améliore, c'est tout ce que je fais. J'ai trompé ma femme, j'ai volé mon employeur, je suis menteur. Mais écoute, on est tous comme ça, puis là, si on commence à se juger les uns les autres, puis à dire ça c'est bien, ça c'est mal, on n'en finira pas. Il faut juste apprendre de nos erreurs. Mais quand tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, ce discours-là, là, il ne viendra même pas sur les lèvres. Tu ne penseras même pas à commencer à dire, « Non, mais écoute, Seigneur, tu ne vas pas me juger pour ces affaires-là. » Il n'y aura pas besoin de le faire. Tu vas être convaincu à ce moment-là. Mais actuellement, sur la terre, il y a deux groupes d'individus. Il y a ceux qui, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, en lisant les Écritures, découvrent de plus en plus qui est Jésus, puis réalisent que cet être-là qui est à la fois humain, qui va dire plus tard, « Vous êtes mes amis », c'est pas juste mon chum, c'est pas vrai. C'est celui qui est Seigneur, c'est celui qui pardonne les péchés, c'est celui qui a autorité sur la loi de Dieu, c'est celui qui se forme un peuple parce qu'il est Dieu le Fils, qui forme une nouvelle communauté de grâce, une communauté de pécheurs. Et voyez-vous, c'est là qu'on se retrouve tous les êtres humains. On a tous ce point commun là ensemble. Qu'on soit rendu n'importe où dans notre cheminement, on a tous ce point commun là ensemble. On est tous pécheurs. On est tous défaillants, déficients devant la sainteté, la perfection morale, la perfection absolue de Dieu. On est tous dans ce camp-là, tout le monde ici. Et chaque jour, ce qui va faire la différence, c'est si j'accepte cette réalité-là, je vais vers Jésus et j'accepte son appel parce que j'ai besoin que lui vienne me toucher, moi qui suis impur. Répondre à l'appel de Jésus, c'est premièrement reconnaître qui est Jésus. Lorsque Pierre a réalisé que le gars dans le bateau, c'était pas un gars qui faisait des tours de magie, il a reconnu qui était Jésus. Et à partir de ce moment-là, Pierre est en train de se qualifier pour répondre à l'appel. Et chaque jour, quand je me lève, puis je suis tenté, après des années de vie chrétienne, de traiter un peu Jésus avec un peu de banalité. Jésus, c'est celui à qui je dis « Ah, merci pour le bon repas. Amen. » Dans le nom de Jésus, amen. C'est correct, tu peux faire ça. Vous comprenez? Il y a une banalité qui s'installe dans nos cœurs parce que c'est notre nature. On banalise la grandeur, la beauté, la splendeur de Jésus-Christ. On n'est plus à genoux devant lui parce qu'on a perdu ça de vue. Puis on a besoin de notre petit Jésus qui vient nous aider quand on est mal pris. C'est pas le petit Jésus qui vient t'aider quand tu es mal pris, c'est le Seigneur. C'est celui qui pardonne tes péchés. C'est celui qui a autorité sur la loi. Tu veux juste qu'il touche encore aujourd'hui. Tu Tu veux juste qu'ils te touchent encore aujourd'hui et qu'ils te disent, suis-moi, suis-moi. Répondre à l'appel de Jésus, c'est reconnaître qui est Jésus et c'est être prêt à tout laisser pour suivre ce Jésus-là. Quand Pierre a réalisé qui était dans la barque avec lui, c'est comme si le miracle n'avait plus d'importance. Quand on vient à Dieu, souvent on a besoin qu'il répare quelque chose dans notre vie. Hein, on vient au « fix God », tu sais, c'est le Dieu qui vient réparer quelque chose dans ta vie. Puis à un certain moment donné, dans ton cheminement, tu découvres qui est Jésus. Lorsque Pierre a réalisé qui était Jésus, écoutez, c'était la pêche du siècle, là. Il y avait du fric dans ce bateau-là, là. Comprenez, c'était vraiment quelque chose. Là. Il y en a pour je ne sais pas combien de journées de travail à faire pour juste s'occuper de tout ça. Puis Jésus dit, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Le miracle n'avait plus aucune importance. Parce que le miracle était là pour découvrir Jésus. On ne vient pas à Jésus pour lui demander de faire des miracles dans notre vie simplement pour ça. Tout ce que Christ fait dans ta vie, lorsqu'il vient te chercher, lorsqu'il se révèle à toi, c'est pour que tu le connaisses lui personnellement. Le miracle n'a plus d'importance. Christ a fait des miracles dans ma vie, il m'a transformé, mais je ne suis pas là pour me regarder le matin dans le miroir et dire « Wow, hey Seigneur, tu as fait quelque chose quand même! » Ça n'a plus d'importance ce qu'il a fait. C'est que tout ce qu'il fait dans ma vie me révèle qui il est, me rappelle qui il est dans sa grandeur, dans sa splendeur. Et cette journée-là, ces gars-là qui ont fait la pêche du siècle, laissent tout cela et suivent Jésus parce qu'ils ont découvert qui était Jésus. À ce moment-là, ces trois hommes-là sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Parce que dans leur cœur, ils étaient prêts à tout abandonner pour suivre Jésus. C'est ça, répondre à l'appel de Jésus. C'est être tellement émerveillé par la beauté, par la splendeur, par cet aspect absolument irréel, extraordinaire, surnaturel de cette personne qui est homme, mais qui est Dieu fait homme, qui est Seigneur, qui pardonne, qui est maître de la loi de Dieu, qui nous apporte la loi de Dieu, réaliser sa splendeur, puis avoir un seul objectif premier dans ma vie, c'est le suivre. Il va te montrer qu'est-ce que tu as abandonné, mais c'est secondaire. Ces gars-là n'ont pas abandonné femme et enfants. Plus tard, l'apôtre Paul va dire, « Ah, je pourrais moi aussi avoir une épouse, des enfants comme les autres apôtres. » Ils vont même pêcher encore d'autres fois plus tard. Mais à ce moment-là, à cet instant-là, ils réagissent comme des disciples de Christ. Si Dieu t'appelle actuellement, il est probablement en train de te dire, « Laisse tout cela et suis-moi. » Et suis-moi. Laissez tout pour être prêt à suivre Jésus. Et ce que Jésus va faire avec vous, il va faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ce matin-là, les gars terminent leur pêche. Ils pêchent du poisson. C'est une profession, c'est un métier noble. Pourvoir aux besoins de leur famille, aider l'économie locale, font rouler les choses, mettre de la bouffe sur la table. Certains d'entre vous êtes pompiers, professeurs, charpentiers, infirmière, médecin, un appel noble, c'est un appel, c'est une vocation que Dieu vous a donnée, un appel pour servir la communauté. Mais celui qui a décidé de répondre à l'appel de Jésus a un appel plus grand encore sur sa vie. Celui d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Celui qui a rencontré Jésus-Christ, qui a découvert la beauté de Christ, la splendeur, qui a réalisé que Jésus-Christ n'est pas un autre prophète, un autre enseignant qui donne de bons principes. Il est Dieu fait homme, qui est venu sur la terre, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts, règne à la droite du Père, reviendra un jour dans la gloire pour exercer pleine autorité. Quand tu as rencontré ce Jésus-là, quelle que soit ta vocation, t'en as une plus grande encore. Dieu t'appelle à annoncer la bonne nouvelle du royaume, à être un pêcheur d'hommes. parce que tu as connu Jésus-Christ. Dieu t'appelle à être un pêcheur d'hommes dans ta famille, avec tes enfants. Dieu t'appelle à être un pêcheur d'hommes avec les chrétiens, j'oserais dire. Parce que les chrétiens oublient l'Évangile, ils ont besoin que tu leur rappelles la grandeur de Christ. Les chrétiens banalisent Jésus, on le fait tous. J'ai besoin qu'on me rappelle la grandeur de Jésus-Christ parce qu'à quelque part, je ne suis plus en communion avec celui qui m'a bouleversé. Je suis avec celui qui a mis des patates et du steak dans mon assiette pour manger. Je dis merci Jésus. Tes collègues de travail pourront lire ce livre-là, mais ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume venant de la bouche de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Et ce matin, peut-être que ce moment-là où tu es tombé à genoux parce que Dieu t'a révélé qu'il était Christ, peut-être que c'est plus là dans ton cœur. Jésus est devenu un être banal. Jésus est devenu le petit Jésus de plâtre que tu pries quand tu as besoin, qui t'aide à job à trouver une solution. Amen! Mais ce n'est pas un petit Jésus de plâtre. C'est celui qui a fait le miracle d'ouvrir tes yeux pour te montrer sa gloire un jour. Et dans ton cœur est né de l'adoration, de la louange. Tu passes pour un fou, soit. Les gens disent, il est malade, c'est un Jesus freak. Un jour peut-être, Jésus va faire un miracle. Puis tu vas tomber à ses genoux. Puis tu vas dire, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. On va prier. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut t'adorer ce matin, on veut élever ton saint nom, Seigneur. On veut célébrer ta gloire, parce que tu n'es pas un simple prophète. Oui, tu es un prophète de Dieu. Tu n'es pas un simple homme, oui, tu es un homme, Seigneur. Mais tu es le Seigneur qui pardonne les péchés, qui pardonne mes péchés, qui rend l'impur pur. Tu es celui qui m'enseigne la loi de Dieu, qui la place dans mon cœur par son Esprit Saint. Tu es celui que j'ai choisi de suivre et d'être prêt à abandonner tout, Seigneur, pour te suivre. Je te prie, Père, ce matin, pour chacun d'entre nous, afin que tu saisisses nos cœurs si, pardonne-nous, Seigneur, tu es devenu un petit Jésus de plâtre dans notre foi quotidienne. Je te prie, Seigneur, pour chacune des personnes dans cette salle, pour qui tu es peut-être un bon enseignant qui a des beaux principes. Viens leur révéler, Seigneur, qui tu es dans ta gloire, dans ta personne, Seigneur. Accorde-leur ce miracle de réaliser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.